Le dernier quart d'heure de Smartbourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des résultats d'ABC Arbitrage. Et à travers la performance opérationnelle d'ABC Arbitrage, la description d'un environnement de marché par le PDG d'ABC Arbitrage à mes côtés, Dominique Séolin. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là. On se voit deux fois par mois pour parler bien sûr de vos résultats. Donc ABC Arbitrage, je le rappelle, spécialiste des stratégies quantitatives d'arbitrage, multiclasse d'actifs. Donc vous êtes sur les marchés, donc c'est ça qui m'intéresse doublement, évidemment, Dominique. Donc on parle de vos résultats du premier semestre, important, parce que l'environnement de marché a pu évoluer au cours de l'été, donc là on est bien sur janvier 30 juin. Qu'est-ce qui a caractérisé l'environnement de marché du premier semestre dans lequel vous opérez, et comment est-ce que ça s'est traduit en termes de performance opérationnelle pour vous, Dominique?
Alors, l'environnement de marché, vous savez que je le regarde toujours sous trois paramètres qui sont très importants pour nous. Donc, c'est un peu répétitif pour ceux qui nous connaissent, mais je pense que c'est quand même important de regarder l'actualité. La volatilité, hein, plus il y a de volatilité, plus il y a une demande de liquidité, plus on peut exercer notre métier d'apporteur de liquidité. Cette volatilité se situe au niveau de 11% à peu près, très en dessous de sa moyenne historique, hein, qui se situe autour de 19-20 pour faire très simple. Donc, on voit qu'on est encore sensiblement en dessous de cette moyenne historique. Ressemble à 2023, néanmoins. Hein, 2023, à peu près 13%, là aussi, des ordres de grandeur.
Volatilité action. Hein.
Action, tout à fait, pardon. Equity, action uniquement, ouais, effectivement. Ouais. Si on regarde maintenant les volumes traités par les marchés, on est en légère hausse quand même par rapport à 2023, plus 8%, mais on reste autour de moins 10% par rapport à la moyenne 10 ans. Donc on voit que les marchés ont quand même du mal à retrouver cette fameuse liquidité. On parle d'attrition de liquidité. Et puis enfin, sur les opérations sur les émetteurs, fusion-acquisition, augmentation de capital, etc. On a le M&A qui a redémarré à mi-mars 2024, progressivement, avec une hausse d'à peu près 10% de l'activité M&A, mais ça reste quand même 15% en dessous de sa moyenne historique. Donc là aussi, on peine à retrouver en fait un environnement normalisé.
Ouais, on parle de ces paramètres de marché avec vous à chaque fois, Dominique. Ça fait plusieurs années qu'on se parle et que je vous entends décrire des paramètres de marché qui sont souvent peu favorable aux opérations d'ABC arbitrage. Non, mais sur ces trois critères-là, vous dites volatilité, M&A, fusion, acquisition, volume, on est très en dessous des moyennes historiques qu'on peut observer sur ces paramètres de marché. Quelle est la part de conjoncturel et de structurel?
Oui, c'est intéressant.
Vous analysez justement.
Alors, peut-être qu'on peut revenir sur quelques ordres de grandeur quand même pour pas noircir trop le tableau. Donc, sur les cinq dernières années, nous avons quand même eu trois années où on a retrouvé des paramètres, en tout cas sur la partie volatilité
et porteur.
Donc le 2020, j'allais dire évidemment avec la Covid, 2021-2022, et puis par contre 2023-2024, très en dessous de la moyenne historique. D'accord. Si on regarde sur 10 ans, on est à peu près à moitié-moitié, là aussi on pourrait nuancer un petit peu, mais on voit que finalement on n'est pas dans des situations non plus tout le temps défavorables. Pour autant, on peut considérer quand même que l'intervention des banques centrales très significative post-crise subprime, et en particulier depuis 2015, a quand même changé une partie du paradigme. Et je prends souvent l'image, et je vais la reprendre là aujourd'hui, désolé pour ceux qui la connaissent, mais en fait, les banques centrales ont transformé l'eau en sable. Je m'explique, quand il y a un choc d'une nouvelle, c'est une pierre jetée dans l'eau et ça crée des ondulations durables. Donc c'est la volatilité qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines après un choc sur les marchés. Et les banques centrales l'ont transformé en sable. Le choc va être extrêmement local et souvent on va durer seulement quelques heures, quelques jours maximum.
SVB par exemple, quoi.
SVB par exemple, et puis on pourra parler du mois d'août si vous le souhaitez
qui était tout à fait
typique de ce genre de situation où finalement les investisseurs s'inquiètent seulement quelques jours.
Dans ce contexte et la perspective que vous nous donnez, donc sur 10 ans, vous dites on a eu à peu près 50% de moments favorables, porteurs. On parle d'environnement de marché pour les opérations d'ABC arbitrage,
qu'on
ne se méprenne pas, et puis 50% de moments moins favorables. Et je vous ai toujours entendu dire aussi, Dominique, depuis le début, il faut qu'ABC arbitrage se désensibilise effectivement de ces facteurs de marché. Vous dites, là, dans le communiqué, vous dites notre capacité à transcender transcender ces paramètres de marché actuels, au cas où on resterait dans des paramètres de marché défavorables.
Oui,
forcément, le patron, il est obligé de se mettre dans cette configuration. C'est quoi le métier qui permet de transcender? J'aimerais bien qu'on en redise un mot aussi.
Oui, alors, on m'a dit transcender, c'est un mot un peu mystique. Alors, notre métier n'est pas du tout mystique. On ne fait pas de magie, de magie noire ou quoi que ce soit. Ça fait plusieurs années qu'on a mis en œuvre une stratégie justement pour transcender ces situations de marché quand même qui se sont plus fréquemment présentées depuis l'intervention des banques centrales. Et puis, on peut penser que les mauvaises habitudes ayant la vie dure, les banques centrales continuent à être quand même relativement présentes. On l'a vu en 2023, vous l'avez rappelé avec l'épisode SVB. Donc on a mis en place deux stratégies parallèles, si je puis dire, l'une et l'autre étant parfois marchant ensemble. D'abord, la diversification des stratégies que nous utilisons, c'est-à-dire être sur le maximum d'actifs possibles, par exemple ouvrir les cryptos, qui ont parfois leur propre volatilité, ouais. C'est intéressant, ouvrir les commodities, l'obligataire, on n'y est pas encore, mais c'est dommage, parce que c'est un sujet...
Là, il y a eu de la volatilité.
Voilà, c'est un sujet intéressant en termes de volatilité, mais bon, à un moment, il faut faire des choix. Donc, multiplier le nombre de stratégies, finalement, même si ces stratégies sont dépendantes de la volatilité, plus vous additionnez des petits profits, plus à la fin, ça fait quand même un gros profit intéressant. Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de développer une gestion pour compte de tiers, c'est-à-dire des clients externes, puisque finalement, je l'ai souvent expliqué, quand vous montez 100 euros ou 1000 euros sur le marché, si vous montez 10 000 euros, ça ne coûte pas beaucoup plus cher si le marché offre ces opportunités. Et donc, effectivement, ça, c'est vraiment une stratégie d'ABC arbitrage, stratégie sur laquelle nous avons des déceptions encore en 2024.
C'est vous qui dites, c'est pas à la hauteur des ambitions.
Non.
Pour cette partie de gestion pour compte de tiers.
Je pense qu'il faut distinguer les faits du travail qui est réalisé. Les faits, c'est que pour l'instant, c'est un échec. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à montrer une dynamique positive en termes de collecte. Ouais. Ça, au moins, on pose la réalité sur la table. Clair. Ça n'empêche que les équipes travaillent dur pour progresser. Et en particulier, nous sommes en train, et depuis 2023, nous avons déjà commencé à transformer les produits pour justement avoir des produits mieux adaptés à la demande actuelle, qui est évidemment une demande qui tient compte d'une volatilité qui risque d'être moindre, et puis finalement de risques qui se réalisent de moins en moins.
Mais est-ce que c'est lié la faiblesse du développement de cette activité de gestion pour compte de tiers? Est-ce que c'est lié par exemple à la sophistication de vos stratégies? Est-ce qu'il y a quelque chose de cette nature-là? Pas forcément, non. C'est pas le frein, il n'est pas là.
Non, c'est quand même une bonne question ou une bonne remarque, parce qu'effectivement, les stratégies quantitatives un peu pointues comme nous pouvons les proposer, ce ne sont pas les stratégies qui viennent collecter la plus grande quantité de capitaux.
C'est pas le mass market.
Exactement, vous avez tout à fait raison. A contrario, ce sont des stratégies qui sont bien rémunérées pour les particuliers ou fortunés, en tout cas, qu'on appelle clients professionnels ou pour les institutions. Donc, quand les performances sont là pour ces institutions, elles sont aussi bien rémunérées pour le gérant. Ouais. Donc, si vous deviez comparer, et je prends quelque chose qui m'est personnel, comme ordre de grandeur, mais quand vous avez 1 milliard sous gestion dans notre métier, ça équivaut probablement à 5, 6, 4 milliards en gestion traditionnelle.
Traditionnelle classique.
Pour avoir un peu des ordres de grandeur.
Comprends.
Donc, quelque part, l'objectif, c'est de collecter, pas forcément autant que les grands acteurs du mass market, pour reprendre votre expression.
Oui. L'équilibre n'est pas le même que le mode de gestion traditionnel.
Exactement, mais quand même de collecter beaucoup plus que ce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui inférieurs à 500 millions d'euros. Clairement, nous devons exister autour du milliard. En dessous de ce milliard, nous aurons du mal à exister en tant que gérant quantitatif.
Ouais. Et alors, je reviens sur l'idée un jour d'intégrer l'obligataire dans vos stratégies. Enfin, c'est plus qu'une idée, ça fait partie du plan de marche. Et qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Vous dites qu'il faut qu'on choisisse nos combats, mais c'est différent de faire ce que vous faites sur les actions, par exemple, aujourd'hui. C'est différent de le faire sur de l'obligataire.
Oui, alors c'est pas que ça. En fait, l'objectif d'ABC est de synchroniser ses investissements et ses revenus. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait faire d'autres choix. On pourrait dire on sacrifie le résultat pendant plusieurs années.
20% d'investissement, c'est ça?
Alors, sur l'IT, on a fait plus de 25% d'investissement.
Plus
25% par rapport au plan stratégique précédent.
D'accord.
Sur la partie ressources humaines, c'est encore plus significatif que ça. Donc,
et tout ça doit se faire avec des revenus qui restent positifs, semestre après semestre,
c'est en tout cas mon mandat. On pourrait choisir une autre voie, mais c'est la voie que nous avons choisie. Et donc, maintenir une politique de dividendes attractive.
Ouais.
Et donc, il faut réussir à synchroniser. Donc, à un moment, il y a des choix. Donc, les priorités, ou la priorité n'a pas été donnée au développement de l'obligataire en 2020, pour des raisons, entre autres aussi, de priorité de production. Le Covid nous a quand même... La situation Covid nous a bien occupés, si je puis dire. Et donc, effectivement, ça nous a manqué en 2022-2023. C'est une réalité. Maintenant, ne soyons pas frustrés de nos choix, assumons-les. Et pour l'instant, en tout cas, il n'est pas prévu de développer cette activité en 2025, par exemple.
Et donc, le 5 août.
Et donc le 5 août, typique, je reprends mon image de la pierre dans le sable. Ça a duré quelques jours à peine, 2-3 jours à peine. Et donc, c'est un peu court pour nous pour changer réellement notre rythme d'activité. Je reprends souvent aussi
l'épisode de volatilité quand même qui est... pas anodin, je le rappelle. Hein. Alors, Lavol, le VIX, c'était 80 à Lehman et plus, hein, c'est ça, au moment de la faillite de Lehman. Je crois, là, on est monté à 60, 65 sur le VIX cash.
Très ponctuellement, mais c'est vrai que c'est impressionnant.
Oui. Mais c'était des niveaux qu'on avait atteints pour le Covid précédemment. Oui, quoi. Voilà, pour donner quand même sur une journée la mesure de ce qui s'est passé. Quoi.
Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour reprendre l'exemple de la Covid, c'est quand même une période sur laquelle les gens ont été très marqués par le choc, mais je vous rappelle que le retour à la normale, en tout cas aux États-Unis, ça a été 6 semaines, peut-être 7, je me trompe.
Pour le marché, hein, bien sûr.
C'est vraiment impressionnant.
Là, ça a été 6 heures. Quoi.
Et donc là, ça a été quelques heures, quelques jours tout au plus. Et je reprends souvent l'explication de notre métier. Nous, on apporte de la liquidité, donc quand le marché est très calme, c'est l'équivalent du receveur de tennis hein, qui se place au milieu du cours de tennis parce que le mec en face sert très faiblement. Quand le monsieur en question s'agite et sert beaucoup plus fort, les premières balles, on les voit pas trop passer pour être tout à fait transparent avec vous. Donc, on doit s'adapter et le plus vite possible, évidemment, mais ça nous demande quand même quelques heures. Ce qui fait que généralement, sur le premier choc, les premières heures du choc, nous ne faisons pas réellement une réelle rentabilité ou une réelle performance. Et ensuite, très rapidement, on vient compenser la situation et faire des belles performances dans cette volatilité. Là, ça a été un peu juste, ce qui fait que j'affirme et je maintiens que ça n'a pas changé le rythme d'activité du groupe réellement au mois d'août, et en tout cas pas pour 2024 dans sa globalité.
Intéressant ce que vous disiez, c'est pas tant les chocs que la maîtrise de l'onde de choc par les banques centrales qui fait que c'est un environnement moins favorable pour vous.
Je trouve que les banques centrales, on l'a déjà dit ensemble plusieurs fois, elles ont un peu cassé cette notion de risque finalement et le SVB en 2023 a remis une couche sur le sujet. Je rappelle que leur bilan est encore autour de 15 000 milliards si on cumule BCE et Fed, hein, je pense que c'est l'ordre de grandeur, versus 2 000 milliards, 3 000 milliards peut-être avant leur quantitative easing. Donc on est encore avec des banques centrales extrêmement présente. Néanmoins, il y a quand même des catalyseurs de volatilité qui se dessinent et la proba de cette volatilité augmente pas à pas, et en tout cas j'en suis convaincu, même si encore une fois l'acteur principal ou les acteurs principaux vont rester les banques centrales.
Bon, on l'a vu, mais intéressant, le VIX par exemple après l'épisode du 5 août a fortement rebaissé, mais il n'est pas revenu à 10.
Alors, temporairement, pas revenu à 10. Vous savez que le VIX est une volatilité, un indice de volatilité future. Et la volatilité réalisée est tombée en dessous de 10 sur la deuxième quinzaine du mois d'août, par exemple. Donc là, on est sur des marchés, pas aussi morts qu'en 2017. Hein. Là, vraiment, c'était vraiment très impressionnant, mais quand même extrêmement calme. Et donc, on est très content de multiplier les stratégies pour continuer à présenter quand même des rentabilités sur fonds propres supérieures à 10%, comme depuis 59 semestres consécutifs.
Attends, ça fait 30 ans. J'ai refait le calcul dans la tête, pour ça c'est pas compliqué de m'enlever par deux.
Ça fait presque 30 ans, voilà. Donc ça fait partie des fiertés de nos équipes et de nos dirigeants, donc moi y compris. Hein. Je suis vraiment fier de ce contrat moral avec nos actionnaires de ce ROE, de cette rentabilité sur fonds propres supérieure à 10%.
Merci beaucoup Dominique. Dominique Seulin qui vient nous voir régulièrement pour évoquer ces environnements de marché dans lesquels ABC Arbitrage opère. Le PDG d'ABC Arbitrage est avec nous, l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.